en mode nouveau talent. Découvrez en live les Inouïs du Printemps de Bourges, Fishes, La Gale et Fauve en direct du studio 105 dès 21h.
Regarde pas les affiches, fais pas gaffe aux signaux. Mets bien tes mains sur tes oreilles quand t'entends rire les narvalos.
Jeudi, les Inouïs du Printemps de Bourges s'écoutent sur le Move, une radio de Radio France.
France Inter,
la voix est libre.
Là-bas, si j'y suis, c'est avec Daniel Mermet et tous ses amis. Ben oui, c'est parti.
Votre émission du jour sur la protection des données personnelles a fait écho à la discussion sur le sujet que j'avais eu, mon mari et moi, hier soir avec des amis. Nous inquiétions pour l'avenir de la protection de notre vie privée et l'émission a montré que nous avons effectivement de bonnes raisons de nous inquiéter. Un exemple parmi tant d'autres, j'ai reçu un courrier la semaine dernière d'un concessionnaire qui m'invitait à acheter une nouvelle voiture car la mienne est vieillissante. En tout petit caractère, je lis que c'est la préfecture d'Ille-et-Vilaine qui a transmis ces données, adresse, type de véhicule, âge du véhicule, etc. Je me suis demandé si cette transmission des données était nécessaire pour sauver la filière automobile. À bientôt, merci.
Bonjour à tous, c'est Gisèle de Montargis. Je comprends pas rien à ce qui se passe avec les gens de la manifestation de Paris hier, parce qu'ils accusent la police de leur avoir flanqué des gaz lacrymogènes, etc., etc., de ne pas avoir les bons chiffres. Mais la police les a escortés. Moi, je rentrais sur le Loiret hier de Paris, en début d'après-midi. Ben, il y avait plein d'autobus qui étaient escortés par des motards, nos motards à nous, qui en principe sont là pour la République. Eh ben, il y avait plein de convois de cars qui allaient à toute vitesse sur la file de gauche, escortés par les motards. Donc, je comprends pas bien ce qu'ils ont contre les flics. Ben, au revoir, expliquez-moi.
Bonjour, Éric de Lyon, pour dire que j'ai bien écouté le discours de Jean-Luc Mélenchon et je suis tout à fait d'accord pour dire que cette personne est antisémite et je vous propose de ne pas vous arrêter là et également de traiter du cas de ce cher Joël Collado de Météo France qu'on entend sur toutes les ondes de France Inter. Qui ne cesse de parler en ce moment du temps qui est Mossad. Voilà, vous conviendrez avec moi que évoquer les services secrets israéliens dans un bulletin météo et tire plus ou moins vers l'antisémitisme. Voilà, je vous remercie.
Salut, c'est Antoine. Alors aujourd'hui, à Tunis, commence le Forum social mondial. À l'université, au campus universitaire El Manar. Alors le mouvement social tunisien accueille le 12e Forum social. Et le doyen de cette faculté des sciences n'a pas manqué de rendre hommage en ouverture du forum sciences et démocratie qui a eu lieu en amont au militant Chokri Belaïd qui a été assassiné le mois dernier ici à Tunis. C'est tout le mouvement social qui accueille aujourd'hui ce forum social. Et aujourd'hui, donc, ce sera l'ouverture avec une assemblée des femmes, l'assemblée des femmes en lutte et la grande marche à travers la ville à partir de 16h qui partira du centre-ville de l'avenue Bourguiba. Demain, au programme de ce 12e forum social accueilli à Tunis, ce sera les révolutions et les processus de lutte pour la dignité, la liberté, la démocratie et la justice sociale dans la région et dans le monde. Vaste programme. On se retrouve demain, j'espère, pour des petites nouvelles. Salut!
Voilà, on a des nouvelles du front avec Antoine Chao qui est à Tunis, au forum social. Donc, il nous enverra des sons et dans les émissions à venir. Alors, cet auditeur a raison, évidemment. Il faut se méfier de gens comme Jean-Luc Mélenchon, bien sûr. Mais il y a les élus du PS et les grands médias qui ont pour mission de nous informer et de nous mettre en garde. Si une fillette offre un bouquet de fleurs à Jean-Luc Mélenchon, bon, ben voilà, vous n'avez pas besoin qu'on fasse un dessin, pédophilie. S'il fait un voyage à Moscou, voilà, bah, c'est que le goulag n'est pas loin. Et s'il rencontre un Allemand, c'est probablement pour lui vendre du beurre. Alors, il se pourrait que l'émission d'aujourd'hui n'échappe pas à la vigilance de ceux qui sont là pour éclairer et protéger et conduire le peuple. On est avec Shlomo Sand pendant une heure avec son dernier livre qui sort ces jours-ci, qui s'intitule « Comment j'ai cessé d'être juif ». Shlomo Sand est un historien israélien qui enseigne à Tel Aviv. Vous vous souvenez peut-être de nos reports, de nos émissions précédentes avec lui. En septembre 2008, nous l'avions reçu pour le livre qu'il a publié à ce moment-là, qui a fait grand bruit, « Comment le peuple juif fut inventé ». À la suite de cette émission, il y a eu un silence glacé pendant plusieurs semaines, malgré le succès de ce livre partout dans le monde, y compris en Israël, où il a été un best-seller. Et puis finalement, quelques mois plus tard, eh bien, le livre a eu beaucoup de succès en France. Il a été traduit dans une vingtaine de langues, « Comment le peuple juif fut inventé », où Shlomo Sand revient sur l'histoire du peuple juif, comment cette histoire a été inventée comme toutes les autres histoires, et comment il n'y a pas vraiment eu de diaspora, comment il y a eu conversion, comment le judaïsme fut une religion prosélyte, etc. Ça a passionné beaucoup de monde, et puis il y a eu, comme d'habitude, ceux qui ont hurlé, c'est tout à fait prévisible, ça fait partie de ce genre de travail, ce genre d'émission aussi, comme celle que nous allons faire aujourd'hui avec lui. Comment j'ai cessé d'être juif, Shlomo Sand va s'en expliquer. C'est un petit livre, vous avez compris, un petit livre de 130 pages sur l'identité en partant de sa propre vie et de sa propre expérience. Auparavant, je voudrais qu'on rende un hommage à une résistante. En France, on aime bien les résistants, mais ceux du passé, ceux qui, voilà, quand ils sont en noir et blanc, quand ils sont en bronze, à cheval, édifiants, impressionnants, écrasants, inégalables, c'est-à-dire inoffensifs. Mais les résistants d'aujourd'hui, on les célèbre pas beaucoup, on en connaît finalement pas beaucoup. Très souvent, c'est pas, faut faire attention, on ne sait jamais, des fois que ce soit des terroristes. Ou des antisémites, tiens, pourquoi pas, des archaïques, des passéistes, etc. Donc il faut se méfier. Et bien nous, on va quand même rendre hommage à une résistante, Renée Ponthieux, elle s'appelait, je dis à l'imparfait, parce que Renée Ponthieux nous a quittés le 20 mars dernier, à l'âge de 60 ans. Elle est morte d'un cancer. Et on l'avait rencontrée lors de nos reportages à Hénin-Beaumont sur l'affaire Samsonite. Vous vous souvenez sans doute de ces ouvrières licenciées après une reprise frauduleuse de l'usine par des patrons voyous avec la complicité des actionnaires de Samsonite à ce moment-là et avec en toile de fond la toute-puissance de Bain, ce grand fonds d'investissement américain. Et vous vous souvenez de la lutte de ces ouvrières qui se sont battues et se battent toujours, pas seulement pour leurs indemnités, qui sont pas seulement sur la défensive, mais qui sont à l'attaque, qui luttent vraiment contre ces salopards. Renée Ponthieux était une fille, une petite fille de mineure. Elle avait commencé à travailler à l'âge de 14 ans. Elle était déléguée du personnel dans les émissions où elle a participé. Elle disait c'est ma fierté d'aller jusqu'au bout du combat judiciaire. Et on avait eu des échos d'elle, si vous en souvenez, lorsqu'elle était à Boston, aux États-Unis, parce que ces petites ouvrières d'Hénin-Beaumont sont allées jusque là-bas pour devant le tribunal. Et l'affaire est en cours. Et il se peut très bien qu'un jour, elles obtiennent une victoire. Ça, c'est la résistance. Ça, c'est la résistance d'aujourd'hui. Donc, on voulait rendre hommage à cette femme, Renée Ponthieux, une résistante, en tout cas pour nous et pour vous aussi, parce que à l'époque, on avait passé un peu le chapeau, vous vous souvenez, pour les aider, les soutenir dans leur voyage. Et ça a très, très bien marché parce que vous aviez envoyé des fonds nécessaires à ce voyage. C'est resté tout à fait entre nous et entre elles parce qu'elles n'ont pas, évidemment, oublié. Vous avez rendu d'ailleurs un petit coucou, un petit hommage depuis leur voyage aux États-Unis. La cérémonie, l'enterrement a eu lieu aujourd'hui, mardi 26 mars, à Vendin-le-Veil. Dans le nord Pas-de-Calais. On va revenir sur des extraits d'un reportage d'Anaël Verzo, où René Ponthieu est avec sa grande amie Brigitte, quelques instants, avec une résistante.
Le dernier puits de mine a fermé à Ouani, dans le Pas-de-Calais. Depuis ce temps-là, on n'extrait plus de charbon dans le Nord-Pas-de-Calais. Et il n'y a pas une famille dans le Pas-de-Calais qui n'a pas un aïeul ou un ascendant qui n'a pas été mineur, quoi.
Les femmes travaillaient aussi hein, au fond de la mine. Hein. Elles triaient le charbon et tout. Hein. Moi, ma grand-mère, ouais.
Moi, ma mère, elle était lampiste. Lampiste, ça veut dire qu'elle mettait les lampes
Elle préparait les lampes pour qu'ils descendent. Voilà. Les mineurs, avant de descendre au fond, bah, ils changeaient. Et puis il prenait sa lampe pour descendre.
Il y a même une chanson. Hein.
Mmh. Ouais. Lampiste.
Ah oui. M'tchette lampiste.
Quand elle va bien. Et mi, je suis triste.
On va où là alors que j'étais volée
à l'usine Samsonite.
C'est la guerre maintenant là-bas. On a l'impression qu'il y a eu la guerre.
Un énorme hangar, tout noir, brûlé par l'incendie.
Ouais. C'est l'horreur. C'était propre et puis c'était bien entretenu parce que avant. Ah oui. Et on finissait notre poste, il fallait balayer notre coin. Donc voilà, là. Ça me fait drôle de voir ça. Tellement je l'ai fait. J'ai élastiqué les poquettes, après j'ai assemblé les poquettes, j'ai fait... Bon, on faisait de tout. Hein. Hein.
Maintenant, ça ressemble à la guerre. À rien.
Il n'y a plus rien.
Donc, bon, je suis quand même pleine de frissons, je suis pas bien. Hein. Je ne vais pas dire je suis pas bien, là. J'ai envie de me sauver, là. Et ma trousse, elle est dans mon tiroir de cuisine. Avec mes outils, c'est. Je l'ai, puis j'arriverai pas à m'en séparer. C'est dans mon tiroir. Et c'est quelque chose qui était précieux ici. Donc, même si quelque part ils nous ont fait souffrir, et c'est une chose qu'on a besoin de garder pour nous personnellement. Quoi. Donc là, quand on sort là, les camions arrivaient là, les portes s'ouvraient et là ils mettaient les bagages terminés pour les envoyer
à Oudena.
À Oudena, tout partait à Oudena.
Il y avait un poteau là.
Oh René.
Je suis comme un radeau qui flotte à la dérive. Vivre pourquoi? Vivre pour qui? Oh, vivre! Il faudra que je trouve la force de survivre. Je préférais souffrir avec toi qu'être libre. Tu étais la vie, tu es parti. Vivre sans toi.
Voilà la chanson préférée de René Ponthieu. Cette ouvrière de Samsonite, lutteuse jusqu'au bout, résistante jusqu'au bout, amitié, fraternité à ses camarades, à sa famille et aux siens. Là-bas, si j'y suis, on retrouve, comme promis, Shlomo Sand, comment j'ai cessé d'être juif.
L'État n'appartient pas aux Israéliens. Moi, je suis très modéré politiquement. J'exige d'être un peu comme la France. J'accepte tout le racisme en France. Si vous voulez, il y a des racismes en France, il y a partout. Mais en Israël, c'est constitutionnel, cette distinction entre des citoyens. C'est insupportable.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Shlomo Sand.
Flight number 2, arriving from New York.
Et il va y avoir sans doute, Shlomo Sand, un papier quelque part au sujet de ce livre que vous publiez ces jours-ci qui va s'intituler « Shlomo Sand aggrave son cas ».
Ah.
Il y a eu comment le peuple juif fut inventé, qui a été un succès, mais un succès assez turbulent, notamment ouais. En France. Il y a ensuite eu comment la terre d'Israël fut inventée. Et maintenant, là, vraiment, vous aggravez votre cas. Comment j'ai cessé d'être juif. Voilà. C'est chez Flammarion, c'est au Café Voltaire. Et alors, le bouquin, il faut quand même le préciser, est dédié à Pierre Vidal-Naquet, en souvenir de Pierre Vidal-Naquet, et commence avec une petite phrase de Romain Gary, qui, dans un ouvrage qui s'intitule « Le judaïsme n'est pas une question de sang », qui date de 1970, où Romain Gary dit « Je considère que les situations extrêmes de l'homme ne sont plus actuellement des situations juives en termes de souffrance ». Alors, ce qui se passe dans ce bouquin, c'est que, là, le sujet du livre, c'est Shlomo Sand. On peut dire que vous partez de votre propre expérience, votre propre
vie. C'est le plus personnel.
Voilà, c'est le bouquin le plus personnel. Et, au fond, c'est une interrogation sur, ben, on va dire, l'identité juive, hein, pour faire facile. Il y a une histoire qui est presque le départ du bouquin. Vous êtes à Paris, chez des amis, et il y a la femme de votre amie, elle s'appelle Michel, qui vous dit « Écoute, Shlomo, je me pose une question. Mon mari est juif, mais il n'a plus aucune pratique juive d'aucune sorte depuis très longtemps. Et pourtant, on dit qu'il est juif, et il est juif. Alors que moi, dit-elle, j'ai été catholique dans ma jeunesse. Enfin, je ne suis plus du tout. Je n'ai plus aucune pratique religieuse, catholique, etc. Et personne ne me dit que je suis catholique. Alors, ça pourrait être un peu le point de départ de votre réflexion. Mais d'abord, avant de prendre ce point de départ, est-ce que ce n'est pas une provocation de commencer par « Comment j'ai cessé d'être juif ?» Parce qu'on va tout de suite vous dire « On savait bien, Shlomo Sand, c'est la haine de soi, self-hating.
» Les gens qui me connaissent savent que ce n'est pas possible que je puisse haïr moi-même. Comme personnage, comme caractère. Dire ça, par exemple, à ma femme, elle va éclater en rire. Je suis la dernière personne qui peut haïr soi-même. Et pourquoi ce titre? Ce n'est pas une provocation. D'une certaine façon, c'est un cri, si vous voulez. Je ne veux pas continuer à supporter quelque chose. Donc, je ne crois pas que j'étais juif autrefois, mais je me considérais comme juif parce que, vous savez, pourquoi pas. Et tant que j'étais éduqué sur l'antisémitisme, les longues histoires de judophobie, oui, j'acceptais le terrain juif en sachant qu'il n'y a pas vraiment une culture laïque juive. Vous comprenez? Donc, mais je laissais tomber, c'est-à-dire que ça ne m'a pas intéressé trop. Et cet petit épisode à Paris a déclenché un processus de réflexion. Donc, après que j'ai terminé un livre sur le peuple, un livre sur la terre, j'ai décidé d'écrire une conclusion sur l'identité juive. Bon, chacun peut s'identifier comme il veut. C'est-à-dire, je ne suis pas contre l'identification juive. Mais le problème est qu'on ne laisse pas moi s'identifier comme je veux. Pour vous donner un exemple, si j'aurais écrit un livre « Comment je cessais d'être israélien », c'était plus acceptable. Mais voilà, non. C'est-à-dire, le fait que je suis israélien, c'est une donnée de ma vie culturelle et linguistique tellement fort. J'ai pu choisir d'être français, mais je reste aussi israélien. Avec l'identité juive, c'est complètement différent. On ne laisse pas. Bon, d'accord, il y a une identité juive laïque. Je n'ai rien à voir avec le judaïsme, le vrai judaïsme, la vraie identité juive religieuse. On ne parlait pas sur ça. En quoi vous êtes juif? Quelle culture juive vous avez? Quelle connaissance d'histoire juive vous avez? Et tout ça, et je peux mentionner certains intellectuels aujourd'hui à Paris, qui se définissent comme intellectuels juifs en langue française, et ça m'a troublé beaucoup. Parce que je me demande en quoi? Est-ce que c'est l'ADN? Est-ce que c'est les couleurs des yeux? C'est quoi l'identité juive laïque? Hein? Donc, dès le début, je dis, je suis descendant des juifs. Je suis, si vous voulez, un fruit aussi de certaines longues traditions juives. Mais aujourd'hui, je ne crois pas que j'ai une culture juive laïque. Et surtout qu'aujourd'hui, j'ai décidé de déclarer que je cesse d'être juif parce que je crois, aujourd'hui, au début du 21e siècle, j'ai le droit de dire je ne suis pas juif parce que la vérité est que je n'ai pas vraiment une culture juive. Et si ce n'est pas un problème, comme Romain Gary a dit, de sang, en quoi je suis juif? C'est ça que je voulais savoir.
Shalom alechem, alechem, shalom. Boachem leshalom, alechem, shalom. Baruchuni leshalom, alechem, elyon. Betzetchem leshalom, alechem, shalom. Shalom alechem, alechem, shalom. Boachem leshalom, alechem, shalom. Baruchuni leshalom, alechem, elyon. Betzetchem leshalom, alechem, shalom. Alechem, alechem, shalom. Boachem leshalom, alechem, shalom. Baruchuni leshalom, alechem, elyon. Betzetchem leshalom, alechem, shalom. La 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 la.
Alors, tout au cours du bouquin, vous répondez à la question, notamment vous citez quelqu'un qui a dit « Je serai juif tant qu'il y aura des antisémites ».
Oui, tout à fait.
Et vous considérez que le long siècle de la judéophobie a pris fin. En gros, bien sûr, il faut demeurer vigilant, etc. On parle évidemment de l'Europe, là, 1850 jusqu'à 1950, en gros.
C'est le siècle anti-judophobe de l'histoire européenne.
De Wagner à Jean XXIII.
Oui.
C'est extraordinaire, ces deux bornes que vous prenez. Et là, vous dites, oui, là il y a eu une judéophobie dont on connaît en gros les grandes lignes, même si les interprétations et l'histoire de cette judéophobie sur laquelle vous revenez, sur cette histoire, évidemment, vous êtes historien, c'est votre boulot, et là, vous revenez sur cette période. Mais aujourd'hui, vous êtes prof, vous enseignez à Tel Aviv, et vous avez des étudiants qui sont des Arabes israéliens, des citoyens, vous allez me reprendre sur tous ces mots-là, des citoyens israéliens qui sont là depuis X générations, qui parlent parfaitement hébreu.
Et mieux que moi parfois.
Mieux que vous parfois, et qui sont complètement pétris de cette culture israélienne, on va l'appeler comme ça, et qui en principe sont des citoyens à part entière, mais dans les faits ne le sont pas tant que ça. Et or, un garçon qui va être né, je ne sais pas moi, à Buenos Aires ou à New York, d'une mère juive, va pouvoir, du jour au lendemain, arriver en Israël et avoir un passeport israélien et être, par rapport aux lois israéliennes, plus citoyen que vos étudiants arabes.
Et encore, vous êtes très gentil. Parce que...
Je suis prudent.
Ok. Parce que quand je suis israélien, je suis moins prudent. C'est-à-dire, je ne cache pas le fait que les motivations centrales d'écrire ce livre avec ce titre est justement ma condition comme israélien qui vit à Tel Aviv, qui enseigne l'histoire, qui a des étudiants palestino-israéliens et appartient, et ça la raison d'écrire le livre avant tout, appartenir à une sorte d'une caste privilégiée. En quoi il s'agit, les citoyens palestino-israéliens sont des citoyens, ils peuvent élire, et voter, et être même en Knesset, mais l'État s'est défini comme État juif, pas République israélienne. Et ça, c'est important parce que beaucoup de gens en France ne veulent pas comprendre en quoi il s'agit. Et nous devons savoir qu'il y a 25% de la population qui, dans les cartes d'identité, ont aux listes du ministère de l'Intérieur, s'écrit que leurs nationalités ne sont pas juives. C'est-à-dire, ça peut être arabe, druze, allemand, etc. Donc, moi, je porte toujours une carte d'identité avec le titre « nationalité juive ». Donc, j'ai demandé de changer ça pour nationalité israélienne. Je voulais que dans les cartes d'identité, ce sera comme le passeport, nationalité israélienne. Mais il n'y a pas une nationalité israélienne. L'idée républicaine que l'État, la démocratie, appartient à tous ses citoyens et pas des citoyens extérieurs, n'est pas ancrée, n'est pas une partie de la culture politique en Israël. Même des gens très gentils comme Amos Oz, Alebet Yeshua, ne comprennent pas en profondeur l'idée qui est très évident pour un Français, que l'État appartient à tous ses citoyens. Et en Israël, et ça s'aggrave les dernières années, l'État n'appartient pas à ses citoyens. Il appartient à certains intellectuels qui vivent à Paris, que leur mère, par hasard, était juive, qui ne connaissent rien du tout de la culture juive et de l'histoire juive. Non, cet État lui appartient. Dès qu'il met les pieds à Tel Aviv ou à Jérusalem, il devient automatiquement des citoyens israéliens. Donc cette situation, qui à mon avis est catastrophique pour l'avenir et l'existence d'Israël, est tellement évidente pour les Israéliens. Nous sommes un État juif. Bon, moi je crois que vivre au début du 21e siècle comme un pays qui se considère comme démocratique et occidental, c'est insupportable. Et j'essaie d'écrire en quoi il s'agit. Le fait que je suis juif en Israël, j'ai des avantages qu'un non-juif n'a pas. Vous comprenez? Et si ma mère n'était pas inscrite comme juif, à 48, comme je suis venu des camps européens, à ce moment-là, jusqu'à maintenant, j'aurais apporté nationalité autrichienne parce que j'étais né à un petit camp de gens déplacés en Autriche. Cette situation qu'on essaye gommer ça à l'extérieur, effacer ça devant la culture européenne occidentale, en Israël, c'est évident, l'État n'appartient pas aux Israéliens. Moi, je suis très modéré politiquement. J'exige d'être un peu comme la France. J'accepte tout le racisme en France. Si vous voulez, il y a des racismes en France, il y a partout. Mais en Israël, c'est constitutionnel, cette distinction entre des citoyens. C'est insupportable. Au-delà de tout ça, il y a de grands problèmes. Beaucoup de ma génération d'origine juive, français, anglais, américain, et parfois allemand, ils reculent vers une sorte de communautarisme. C'est-à-dire le fait qu'ils se considéraient comme juifs plutôt comme français. Bon, ils ne sont pas des français juifs, ils sont juifs français. Et ce phénomène de la dernière 20-30 ans est devenu tellement, comment dire, central dans la culture politique, dans la sensibilité collective, dans le monde occidental, qu'il a beaucoup à réfléchir sur qu'est-ce que ça veut dire être juif en Israël. Parce que politiquement, si vous voulez, je sais que cette cherche de communautarisme à Paris, à New York, fait que beaucoup de gens, pour exprimer leur identité juive, ils n'ont pas un moyen, parce qu'ils n'ont pas une culture juive, hein. Le seul moyen de s'identifier à Israël, c'est de se solidariser avec la politique israélienne. Mmh. Donc, j'essaie de répondre dans mon livre sur cette problématique qui me gêne beaucoup.
On observe ça en France, une inconditionnalité d'une partie, alors toujours discutable, de la communauté juive dans son inconditionnalité avec les politiques israéliennes, quelles qu'elles soient.
Oui.
On suit aveuglément. Et on risque, si l'on critique ces politiques, d'être relégué au banc d'antisémites ou de traîtres, si l'on est juif en France.
Tout à fait. C'est-à-dire, c'est un phénomène que chaque visite en Europe, et surtout en France, s'aggrave de quelque façon. Il y a 30 ans, la position de la communauté, les CRIF, la communauté juive, était beaucoup plus nuancée face aux méfaits des politiques israéliennes. Aujourd'hui, dès qu'on commence à critiquer Israël, on est classé en France comme anti-israélien, anti-juif, etc.
I'm so honored.
Je suis très honoré d'être ici alors que vous vous préparez à célébrer le 65e anniversaire de l'État libre et indépendant d'Israël.
Barack Obama.
Tel Aviv. Et je sais qu'en foulant ce sol, je marche avec vous sur les terres historiques du peuple juif.
20 mars 2013.
Il y a plus de 3000 ans, le peuple juif vivait ici. Et après des siècles d'exil et de persécution, la création de l'État juif d'Israël fut une renaissance, une rédemption comme aucune autre dans l'histoire. Aujourd'hui, les fils d'Abraham et les filles de Sarah accomplissent le rêve de leurs ancêtres. Les États-Unis sont fiers d'être à vos côtés en tant que votre plus fort allié et meilleur ami. Pourquoi ? Pourquoi les États-Unis restent si fortement, si fermement liés à l'État d'Israël ? La réponse est simple. Nous partageons une histoire commune, celle de patriotes déterminés à être un peuple libre sur ces terres. Nous sommes liés aussi, car nous sommes des démocraties.
Shlomo Sanz, je rappelle le titre du bouquin « Comment j'ai cessé d'être juif ». Alors, on va vous dire pour ce bouquin ce qu'on vous a dit pour les précédents, et surtout celui concernant comment le peuple juif fut inventé. On le sait, mais ce n'est pas le moment de dire ça. Hein, c'est, oui, d'accord, mais bon, parce qu'on vous a dit, et puis on vous le répète, et puis on va vous le répéter pour ce bouquin-là, vous faites le jeu des antisémites, vous faites les jeux de nos ennemis.
Ce n'est pas le moment. Le moment est la visite d'Obama à Israël. C'est ça le moment. Obama est venu en Israël quelques jours après que le livre est sorti à Paris, à peine. Nous sommes à côté des plus forts, Israël, les Juifs aujourd'hui. Dans l'histoire, les Juifs, à travers les siècles, ils étaient toujours faibles. Et dans la modernité, ils étaient à côté des faibles. Cet phénomène des intellectuels juifs, de Marx jusqu'à Howard Zinn, ou si vous voulez, Pierre Vidal-Naquet, qui était toujours à côté des faibles, c'est terminé. Israël et les comités juifs, aujourd'hui, sont à côté des plus forts. On a vu ça dans la visite d'Obama, qui vient en Israël. Moi, j'espérais qu'il sera à Carter, c'est-à-dire qu'il impose en Israël une compromis historique avec les Palestiniens. Comme Carter a imposé à Israël un compromis historique avec l'Égypte. Pas du tout. Un discours historique moraliste de la part d'Obama qui fait un éloge à la colonisation sioniste. Et il commence, comme moi, toujours, avec la Bible. Il a mentionné Moïse, Obama, et après Josué
oui.
Comme un personnage mythique, biblique. Et moi, je sais qu'est-ce que la Bible décrit, qu'est-ce que Josué a fait dans l'histoire. C'est la première histoire sur un génocide biblique. Hein? Donc, comme il fait ce discours, il soutient Israël jusqu'à bout. Donc, ce n'est pas le moment. Autrefois, ce n'était pas le moment. Vous savez qu'à l'époque, j'étais gauchiste. Je me considérais toujours comme juif. Et toujours j'ai dit, je reste juif jusqu'à la fin des antisémites existent sur la terre. Mais aujourd'hui, avec cette force qu'Israël a, avec ce soutien du monde occidental et surtout des États-Unis, vous savez, il n'y a presque pas des États qui mettent en cause l'existence d'Israël. À la fin des années 60, début des années 70, comme j'étais un gauchiste, beaucoup des États ont mis en cause l'existence d'Israël. Mais 2002, les Ligues arabes déclarent qu'ils reconnaissent l'État d'Israël dans les frontières de 67. Uh-huh. À partir de ce moment, je reste israélienne parce que je vis là-bas, je suis un citoyen, ma propre la culture de base est israélienne, mais je ne veux pas appartenir à cette cohorte des juifs qui croient qu'ils sont hors des temps, qui donnent une impression que l'antisémitisme public, politique existe toujours et justifie n'importe quoi. Et j'ai vu dans un État qui n'est pas vraiment démocratique, parce qu'une démocratie, c'est une expression de tous ses citoyens. Et en plus, 45 ans, dominer une autre population, un autre peuple, une autre nation, sans qu'il n'y ait aucun droit politique, civique, droit d'autodétermination. Moi, je crois que si quelqu'un d'origine juive, ou si quelqu'un qui se déclare juif, qui ne réagit pas à ce moment-là, à cette réalité, morale et politique, il n'appartient pas ni à mon peuple, ni à mon parti politique, ni à ma sensibilité. Je crois qu'un point de vue sensibilité, je suis beaucoup plus proche des intellectuels d'origine juive d'autrefois que des intellectuels juifs aujourd'hui à Paris.
Et la religion et le judaïsme, Shlomo Sand, vous avez une histoire, deux chariots qui se croisent. Un chariot vide et un chariot plein. Racontez l'histoire de ces deux chariots.
Ça, c'est une chose très, très connue en Israël, parce que c'était une rencontre entre le chef d'État qui s'appelle David Ben-Gurion, en 1950, avec le chef de l'orthodoxie, c'est-à-dire Hazon Ish, qui était le grand rabbin, non sioniste d'ailleurs, des vrais communautés juifs en Israël. Et Hazon Ish, qui était un rabbin très, très intelligent, il arrive, et il se voit, ils ont une conversation amicale, et Ben-Gurion dit, voilà, nous faisons la colonisation, nous changeons la terre. Et Hazon Ish a dit, vous savez, il y a deux chariots.
Deux chariots.
Une plein et une vide. Mmh. Et s'ils montent sur une colline, c'est le chariot vide qui doit laisser passer le chariot plein. Nous, le judaïsme historique, avec les cultures talmudiques, etc., nous sommes les chariots plein. Et vous, avec votre soi-disant culture juive, vous n'avez rien du tout. Et il voulait dire qu'il n'y a pas vraiment une culture juive laïque. Hein? C'est vide. Laisse-nous passer. Donne-nous les droits en Israël à cause que nous sommes un chariot plein. Bon, j'ai dit qu'en principe, Hazon Ish, une grande, grande rabbin, a eu raison. C'est-à-dire, il y a une culture juive orthodoxe qui existe toujours. Mondalion, à Paris, il y a une communauté juive orthodoxe. À New York, il y a beaucoup plus. Mais est-ce qu'il y a une culture juif laïque? Est-ce qu'il y a un théâtre juif aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une littérature juive aujourd'hui? Est-ce que Finkielkraut ou Beron-Lévy, c'est une littérature aux pensées juives? Vous savez, je peux continuer, mais je ne crois pas qu'il y a. Parce que je crois que la culture de Finkielkraut est une culture très, très française pour moi. Par contre, le Hazon Ish, en 1952, n'a pas vu juste une chose. Que le sionisme a réussi à créer un peuple, d'ailleurs deux peuples, un peuple israélien, un peuple palestinien, qu'il ne veut pas reconnaître ni l'un ni l'autre. Et il a créé une culture israélienne. Il y a une littérature israélienne. Mmh. Il y a un théâtre israélien.
Un cinéma.
Il y a un cinéma israélien. Oui. Il n'y a pas un cinéma juif. En quoi il s'agit, c'est définir comme juif laïque. C'est ça que je demande. Autrefois, oui, à cause Hitler. Autrefois, oui, à cause des massacres. Julian Tubi, qui est un grand, grand poète polonais d'origine juive, qui était toujours polonais. Il est revenu en Pologne en 1945. Il ne voulait pas émigrer en Israël. Il a commencé à se définir comme juif. Et comme je donne la phrase, il dit, à cause des sangs qui coulent dehors, je suis juif. Donc j'ai toujours adopté cette position. Mais vous savez, on est toujours en retard d'une victime. Comme Romain Gary a dit. Uh-huh. On dit que la France est toujours en retard d'une guerre. Je peux dire, surtout la France est toujours en retard d'une victime. Et c'est le cas à propos, à mon avis, des juifs d'autrefois, et des émigrés, des Africains, Arabes, etc., aujourd'hui. Romain Gary, justement, a écrit sur ça, par rapport aux Noirs américains dans l'année, en début d'année 70. Mmh. Voilà. Il y a de nouveaux victimes toujours dans l'histoire. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas être en retard des victimes.
This thing is an entire mess. The Palestinians are virtually in like a concentration camp. They have a few small missiles, but it's so minor compared to the firepower of Israel, who has nuclear weapons, and they can turn off all the food and all the water and whatever they want to the people in Palestine.
Yo, yo, yo. Ladies and gentlemen, I want your attention. Let me take you back to 1897 in Basel, Switzerland, Zionist Convention. With the Theodore Herzl and rest of the henchmen, the session agreed to return to Zion. 1903, the Aliyah be arriving, supported by the British. Pro-Zionist minded, Brock said Judea stood in the way of white men, aided with the Arthur Balfour Declaration. Working with Rothschild, another Freemason. America joined up, approved the migration. Palestinian land, they began taking civilian resettlement, land partition. Many got killed from their own home, driven. The war got built. With no opposition, West Bank, Gaza resembling a prison.
I have a dream.
One day to see the liberation of Palestine.
I have a dream.
One day to see the liberation of Palestine.
Dans votre bouquin, vous retracez à grands traits, avec un angle critique et toujours historiographique, en gros, l'histoire des Juifs d'Europe, et vous revenez sur la représentation que les Juifs donnent d'eux-mêmes, se font d'eux-mêmes, de leur identité, et vous êtes dans votre idée fixe, qui est de me libérer de cette étreinte déterministe, vous dites, et vous êtes très critique envers une certaine représentation de la souffrance des Juifs, de la destruction des Juifs, et vous êtes très critique envers quelque chose qui est absolument intouchable chez nous, et pas seulement chez nous, qui est le film de Lanzmann, de Claude Lanzmann, Shoah. Vous êtes très critique envers ce film. Est-ce que vous pouvez dire pourquoi il revient ? J'oublie de... Enfin, il faut rappeler que vous êtes aussi critique de cinéma, un historien de cinéma.
Oui, peut-être que j'ai un peu trop agressive, mais le film m'a dérangé beaucoup.
Vous dites que c'est un film harassant.
Oui, vous savez que... Je ne sais pas si appeler l'anecdote qui m'est arrivée avec cette fille amante de Sartre et surtout de Simone de Beauvoir, qui a écrit un livre, Une fille dérangée, qui raconte qu'elle, la maîtresse de Simone de Beauvoir des années 30, dans l'année 40, elle était en sud de la France avec sa famille d'origine juive qui ont fui le nazisme. Et ni Jean-Paul et ni Simon ne l'a pas contacté, ne voulait pas savoir quel est son sort.
Je crois que moi, il faut peut-être être un peu plus précis. On sait, ou du moins vous savez, que alors qu'ils étaient tous deux enseignants au Havre, Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, ça fait partie des grandes indiscrétions de l'histoire, mais qui sont tellement connues que maintenant, ça
partout,
fait partie
partout
de l'histoire. Voilà, partie de la littérature. L'un, Jean-Paul Sartre, avait une maîtresse. L'autre, Simone de Beauvoir, avait une maîtresse. Et c'est ces deux jeunes femmes en question.
Olga qui, et Bianca.
Voilà, la guerre éclate. Et ces deux jeunes femmes, elles sont des juives polonaises, dites-vous, et elles se réfugient quelque part, vers Nice, etc. Alors ensuite.
Et durant la guerre, 4 ans, jusqu'à août 1944, ni Simone de Beauvoir, ni Jean-Paul Sartre, ça n'intéresse pas le destin de Bianca Lebrun.
Ces deux jeunes femmes.
Comme j'ai lu ses mémoires, j'étais très troublé, parce que j'étais un admirateur de Sartre, autrefois, comme beaucoup de monde. Et après, comme les films Shoah, avec une préface de script, Simone de Beauvoir, qui dit que c'est la première fois qu'il a compris qu'est-ce que c'est le Shoah, qu'est-ce que c'est le massacre de destruction des Juifs, j'ai été troublé. C'est-à-dire, j'ai senti mal avec ça.
Vous reprochez à cette intelligentsia parisienne d'avoir tourné la tête à ce moment-là ou oui. D'ignorer.
Oui, oui. Et bon, c'est d'ignorer. Vrai que Jean-Paul Sartre a écrit après la guerre, c'est la question juive, au moins ça, mais Simone de Beauvoir. Le fait qu'elle a signé qu'elle est non en rien au Havre pour continuer de travailler, elle a mentionné une fois dans Les Forces des Choses. Tout ça, c'est des détails. Les problèmes avec les films de Shoah, et je les compare par exemple les films d'Alain René, Les Nuits et Brouillard, bon, j'ai fait une critique assez modérée des films de René, que je pense que c'est un petit chef-d'œuvre, et j'ai fait une rapproche qu'ils ne mentionnent pas assez les juifs, les victimes juives dans les films. Bon, je le pardonne parce qu'il essaie de montrer un képi.
Oui, le fameux képi d'un gendarme qui apparaît dans le film, mais il y avait une version où il n'était
oui,
pas.
Oui, c'était coupé.
C'était coupé, et c'était donc pour l'époque, en 1955, l'idée de René, c'était de montrer la collaboration et la participation du pouvoir français à la destruction des Juifs.
Exactement. Et il a essayé de montrer cette képi. Dans les films longs de Nevers de Lanzmann, 30 ans après, il n'y a pas un képi de gendarme français. Et d'ailleurs, un film qui s'appelle Shoah avec une grande S, Les Shoah, le fait qu'il n'y a pas de train qui sort de Drancy m'a troublé aussi. Vous savez, si c'était intitulé Shoah en Pologne, ça va. Mais Shoah, un film qui était fait en France, n'est pas mentionné qu'il y avait des trains qui sortent de Drancy. Moi, je suis très critique. Bon, il y a deux autres choses. Comme Israélien d'origine juive, et je suis toujours Israélien d'origine juive, j'étais aussi troublé qu'un film de Nevers ne mentionne pas des autres victimes. Ça m'a dérangé qu'il ne mentionne pas qu'aussi les Polonais étaient des victimes. Et il y a 2,5 millions de Polonais massacrés par les nazis. ni les tziganes.
Des Polonais présumés catholiques.
Oui, présumés catholiques, comme les autres Polonais présumés juifs. Il faut comprendre, avant Hitler, beaucoup de gens d'origine juive se vuent français, hollandais, et polonais, allemands. Vous savez, les plus tristes dans les camps étaient que beaucoup des Allemands juifs ne savaient pas pourquoi ils sont dans les camps. Hein, ils n'ont pas compris en profondeur. Pour revenir, ce film Never, on ne mentionne pas les problématiques. On met sur le même niveau les pauvres paysans bêtes polonais antisémites avec les nazis. Et moi, c'est comme historien, ça m'a révolté. Donc, j'osais formuler une critique en face des Shoah. Surtout que, si vous voulez, ça a créé aussi une sorte de vache sacrée qu'on ne pourra pas le critiquer. Et je crois qu'il y a des films sur la destruction des Juifs. Je n'aime pas le mot Shoah parce que c'est en hébreu, c'est un désastre naturel, de nature. Bon, moi, je crois que c'est un désastre des êtres humains. Okay? Donc, les destructions des Juifs, vous savez que les nazis ont tué beaucoup de gens innocents, non combatifs, surtout des Juifs, mais pas seulement les Juifs. Ça, c'est ma position. Mmh. Et c'est la raison que je préfère des autres films qui n'essayent pas de faire un tri ethnique et parler seulement, même que la destruction des Juifs était centrale dans le nazisme, très importante. Et je suis ravi que le monde occidental aujourd'hui connaisse cette histoire. Faire des Juifs des victimes à part complètement, en place des peuples élus, on a une victime élue, je n'accepte pas. Je crois que c'est dangereux. Vous comprenez? C'est bien qu'on sait que tellement de Juifs s'étaient liquidés. C'est très bien que c'est dans la mémoire, dans la conscience. Mais séparer les victimes juives des autres victimes, c'est continuer à cette façon le travail de Hitler. C'est lui qui s'est à séparer les Juifs des autres êtres humains.
Il n'y a pas d'histoire juive, vous comprenez? Il y a une histoire des Juifs. Et il y a des histoires juives.
Pierre Vidal-Naquet, 8 novembre 1991.
Et elles sont extraordinairement variées. Et si j'ai voulu faire passer quelque chose, c'est justement l'idée qu'on ne peut pas résumer cela, que c'est une histoire éclatée, en facettes. Et ce sont quelques-unes de ces facettes que j'ai essayé de donner.
On peut peut-être dire du film de Lanzmann que c'est un film personnel, c'est sa propre vision des choses, et en ça, c'est discutable, et intéressant, et passionnant, et touchant, tout ce qu'on voudra, mais le grand danger, et qui persiste, c'est qu'on en a fait un film d'histoire. On dit, voilà l'histoire.
On a mis ça dans la pédagogie de l'histoire, ah, vous savez, dans l'école, etc., c'est ça. Qui est un point de vue personnel, il a une sensibilité qui est différente de ma propre sensibilité. Il a les droits. Moi, je suis plus universaliste que lui. Et je crois que, comme je parle sur le massacre nazi, c'est complètement différent. Je ne réduis pas les nombres, les présences des tragédies juives de tout. Mais je les mets dans un contexte un peu plus général. Donc, cette petite livre que j'ai écrit aussi, c'est une sensibilité personnelle. Et pour vous dire, parce que je crains que je n'aurai pas l'occasion de dire une chose qui est très importante, ça sort à la fin du livre. Les vraies raisons, après toutes les autres motivations qui m'ont amené à écrire ce livre, si vous voulez, j'ai été à Londres, je raconte ça, dans une grande librairie, j'ai eu une discussion avec un public, une audience très chaleureuse, etc. Mais ils ont dit, ils ont insisté qu'ils sont juifs, le modérateur a dit oui, je suis contre les politiques militaires et militaristes israéliennes, mais je reste comme un juif. Et il y avait là-bas, dans l'audience, il y avait certains gens qui n'étaient pas juifs, n'étaient pas considérés comme juifs, ils n'ont pas intervenu. Et soudain, j'ai senti quelque chose de bizarre. C'est la première fois dans ma vie que je me posais des questions. Et c'est ça, la base de mon livre. Vous savez, on peut devenir musulman. On peut devenir français, avec un peu d'effort, mais on peut devenir citoyen français. On peut devenir israélien. On peut devenir chrétien. C'est pas difficile. On peut devenir juif. Religieux, c'est un peu difficile, mais on peut devenir. La question qu'ils me posaient cette soir à Londres était comment on peut devenir un juif laïque si on n'est né pas d'une mère juive? Comment quelqu'un peut rejoindre le club que je suis jusqu'à ce moment-là, cette soir à Londres? J'étais juif laïque. Et je me demandais comment quelqu'un qui n'est pas juif laïque peut me rejoindre dans le club. Bon. Et j'insiste dans les livres, devant Auschwitz, personne ne voulait être juif. À Vichy, ici, il y a 60 ans, personne ne voulait être. Mais quelque chose a changé dans l'histoire et je pose des questions. Est-ce qu'être juif laïque, ce n'est pas un club fermé, exclusif, qui ne reçoit pas de membres? On ne peut pas devenir juif laïque. Et moi, j'ai décidé, j'ai vieilli, peut-être je m'approche à la porte de sortie, et à cause des histoires juives, avant le XXe siècle, et durant le XXe siècle, j'ai décidé que je ne veux pas appartenir à un club exclusif fermé. C'est la raison de base que j'ai écrit ce livre. Le titre n'est pas une provocation. Je ne veux pas appartenir à un club que les autres ne peuvent pas me joindre.
Go ahead. Attention all you sucker crews! Attention! We'll freeze in your tracks, you dumb sucker crew! Cause we got that dope beat, fresh, funky and new! Well, this track's laid down by the Moisha MC. And my homeboy Easy Irving, he's as deaf as can be. But you know we don't eat pork, beef, crab or ham. Just a little Manischewitz and some boiled up way. And we don't work on Friday, it's the Sabbath, you see. Cause we are two live Jews, and we're kosher as we wanna be. Kosher as we wanna be. Kosher as we wanna be.
Shlomo Sand, vous revenez sur la construction des nations au XIXe siècle. Vous expliquez comment les nations, ou la construction des États-nations au XIXe siècle, a entraîné des récits nationaux. Hein. Il a fallu, pour chacun des grands États-nations, construire que nous étions tous, pas vous, mais moi par exemple, il faut quand même que je parle un petit peu de moi, un descendant de Gaulois, c'est ce qu'on nous apprenait à l'école quand j'étais enfant. À partir de ça, on voit bien qu'on a construit au XIXe siècle un récit national français. C'est la même chose pour tous les États-nations.
Partout.
Et le sionisme s'est développé dans ce Exactement. Courant à la fin du XIXe siècle. Et là aussi, évidemment, les sionistes ont construit un roman national, un roman juif, en inventant ou en assemblant des éléments et en construisant ce qui est toujours aujourd'hui une des composantes de cette identité que vous remettez en cause.
Et c'est faux. C'est-à-dire, si aujourd'hui, les gens de 20 ans savent au moins, on ne réfléchit pas, qu'ils sont les descendants directs des Gaulois, en Israël, j'enseigne devant des classes tellement coloré en point de vue de beauté humaine, noir, brune, roux, blonde. Et tous se considéraient comme descendants directs des anciens hébreux. Ça me fait marrer, c'est-à-dire voir ça. Et maintenant, j'ai réfléchi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne peut pas dire, voilà, nous sommes des réfugiés que l'Europe nous a jetés dehors, nous viennent de nulle part, nous sommes des enfants de plaines, de populations différentes, etc. Non. Le problème est politique, c'est-à-dire c'est considéré comme ethnie, et toutes les ethnies sont fictives. On sait aujourd'hui que c'est la construction des nations a toujours inventé des ethnies fictives en passé. Le problème est que cette vision ethnocentrique des nations, et aussi en France du 19e siècle, a fait beaucoup de mal aux autres. C'est-à-dire, on doit comprendre que les choses qu'on appelle antisémitisme, à partir du milieu du 19e siècle, une des axes de cette judophobie, et chercher un ennemi. C'est-à-dire, chaque nation a besoin aussi d'ennemis. Mmh. Ils ont eu besoin, les Juifs, comme ennemis de l'intérieur. Donc, je crois que ça renforçait la conscience nationale de certains courants très forts en France. Et je crois que l'Europe, qui s'est constituée avec beaucoup de difficultés, a choisi un autre ennemi intérieur, extérieur, qui est plutôt l'islam. Pas que j'ai les sympathies des islamiques ou des musulmans, etc. Mais je crois que cette attitude en face des émigrés, c'est une suite, à mon avis, pour construire l'Europe comme autrefois on a construit des nations.
Alors, vraiment, vraiment, vous cessez d'être juif, Shlomo Sand? Comment j'ai cessé d'être juif?
Si demain, je ne crois pas, il y aura des vagues antisémites,
oui,
je vais rejoindre mes ancêtres. Pour le moment, je ne vois pas ça dans l'horizon. Je suis tranquille avec ça. Je suis inquiète avec le destin d'Israël.
Est-ce que vous croyez qu'Israël peut devenir un jour un pays normal?
Avec une aide extérieure. C'est-à-dire, je voulais dire que dès dedans, on a vu les dernières élections. Je ne crois pas que la société israélienne se trouve tellement confortable avec cette situation coloniale. qu'il n'y a pas de rapport de force, c'est terrible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une résistance. Hein. Vous savez, à l'époque des terreurs, au moins on en parlait sur les tragédies, tout ça, palestinien. Et aujourd'hui, c'est quoi? On vit tranquillement à Tel Aviv, à Jérusalem, à Haïfa et à Netanya. Hein. Et voilà, ça va. Il y a aussi des émigrés qui viennent de Paris, parce que je n'oublierai pas cette scène, voir à la télé un groupe des émigrés qui viennent de Paris. Et comme on demande, le reporter demande « Pourquoi vous êtes venu? Pourquoi vous avez fait l'Alia ?» Le chef de groupe a dit « Il y a trop des Arabes en France. » Oui, je suis inquiète. Je crois qu'il faut aller aider de l'Europe et les États-Unis pour changer le cap et avoir deux États confédérés en paix avec un compromis historique. Deux États confédérés entre une république israélienne d'ailleurs et une république palestinienne qui accepte un parti de colons qui vont rester chez eux.
Il est sorti en Israël, ce
non,
livre?
Dans trois semaines. C'est la première fois qu'il se marie, parce qu'en général, je publie en hébreu et après, les autres là.
Comment j'ai cessé d'être juif, je me sens chez Flammarion. Merci. À bientôt.
Merci beaucoup.
Voilà, vous retrouverez Shlomo Sand demain à 20h dans l'émission de Kathleen Evin, L'humeur vagabonde sur France Inter. Et puis je crois qu'il va être aussi chez Tadei, Frédéric Tadei, vendredi soir. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique Programme, émission là-bas si j'y suis. Sur le site là-bas.org, là-bas.org, vous pouvez réécouter cette émission. À la technique aujourd'hui, David Federman et Alain Duclos. Lucie Acoun et Franck Adhérer ont réalisé cette émission préparée avec Grégory Salomonovic et Marion Dupas. Attend dès à présent vos messages sur le répondeur de la base si j'y suis, 01 56 40 37 37.
Attention, vendredi dernier, le jackpot Euro Million n'a pas été gagné. Ce mardi, il atteindra près de 111 millions d'euros. Partagez au rang 1 et plafonné à 190 millions d'euros, voire règlement.
Euromillion, et si votre vie devenait infiniment plus riche? Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
France Inter présente Les Amants passagers, une comédie débridée de Pedro Almodovar au cinéma le 27 mars.
Mis compañeros y yo intentaremos hacerles pasar el viaje lo más agradable posible. No me pregunten cómo.
Embarqués à bord d'un avion à destination de Mexico, les passagers du vol 2549 pensent vivre leurs dernières heures. Les Amants passagers, le retour de Pedro Almodovar à la comédie de ses débuts, avec Javier Camara, Lola Dueñas et Cecilia Ross. Retrouvez Les Amants passagers dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
16h et quelques secondes sur France Inter. À demain, 15h pour la basse si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut!
Des milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui dans les rues de Nicosie, des lycéens et des étudiants en majorité. Il s'agit de la première manifestation de la colère populaire au lendemain de l'accord trouvé à Bruxelles pour sauver Chypre de la faillite. Le pays vit au ralenti depuis 11 jours maintenant. Les banques sont toujours fermées, elles rouvriront jeudi. En attendant, le patron de la principale banque chypriote, Bank of Cyprus, a donné sa démission aujourd'hui. Le jour où le ministère du Travail doit annoncer des chiffres records en février pour le chômage et le jour où Jean-Marc Ayrault appelle à une mobilisation générale pour l'emploi, l'idée du fondateur d'Iliad, à qui appartient Free, Xavier Niel, annonce aujourd'hui l'ouverture à Paris d'une école informatique révolutionnaire. Elle sera ouverte à tous, y compris aux personnes sorties du système. Cette école accueillera dès la rentrée prochaine un millier d'élèves. Les cours seront gratuits. Le cursus durera de 3 à 5 ans. L'établissement sera ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et chaque étudiant aura son ordinateur. Un site internet pour s'inscrire, 42.fr. Une première sélection aura lieu cet été. À chaque jour, ces embarcations de fortune au large de l'Espagne, les services de secours maritimes espagnols et marocains ont intercepté aujourd'hui 23 migrants africains qui tentaient de traverser le détroit de Gibraltar à bord de bateaux gonflables. Heureusement, tous étaient en bonne santé, mais les autorités constatent que le modus operandi des migrants qui veulent rejoindre les côtes espagnoles a changé. Avant, ils utilisaient des bateaux où s'entassaient 30 à 40 personnes. Aujourd'hui, ils sont dans des bateaux en plastique qui sont littéralement des jouets. Le procès du meurtrier présumé d'un lycéen en 2010 au Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne s'est ouvert aujourd'hui devant la cour d'assises. Il y a 3 ans, Islam Belkebir avait poignardé dans son lycée Hakim Mahdi à la suite d'une dispute. Il avait ensuite pris la fuite avant d'être retrouvé dans la nuit près du domicile de sa mère. Le drame avait suscité une grande émotion et entraîné l'organisation des États généraux sur la sécurité à l'école. Ils en avaient fait d'ailleurs la publicité en fin de semaine dernière. C'est chose faite depuis hier. Entre 15 et 20 cannabis social clubs se sont officiellement déclarés en préfecture un peu partout en France sous forme d'association loi 1901. Il s'agit en fait de groupements de personnes qui cultivent du cannabis et se partagent leur production sans en faire commerce. Ces CSC réclament aujourd'hui la dépénalisation du cannabis. Du changement dans le monde de la BD, l'éditeur Dupuis vient de racheter la petite maison d'édition Marsu Productions. Marsu Productions a notamment dans son catalogue Gaston Lagaffe et le Marsupilami. On ne connaît pas le montant de la transaction, mais ce rachat marque de façon symbolique le retour des personnages mythiques de l'histoire des éditions Dupuis. Ils se sont offerts une pleine page dans le journal Le Monde aujourd'hui pour interpeller Aurélie Filippetti. Les anti-corridas, soutenus par de nombreuses personnalités, demandent aujourd'hui à la ministre de la Culture d'inscrire la lutte contre la corrida à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel français. Cela mettrait, selon eux, en exergue que l'opposition à la corrida constitue une expression sociétale, philosophique et juridique. Vous écoutez France Inter, 16h04.
Cette semaine, dans le Pont des Artistes, Isabelle Dordain reçoit Christine Salem, Black Bazar,
du fin fond du Fouladou au Congo Brazza, l'africaine école buissonnière des Beaux-Arts,
et Raphaël Galazzi. Pour assister à l'enregistrement de l'émission, rendez-vous demain à partir de 18h devant la porte B de la Maison de Radio France. Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. France Inter.
La voix est libre.
Bonjour Frédéric Lodéon, c'est à vous.
Merci Laetitia Gaillé, on vous retrouve à 17h.
À tout à l'heure.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Je vous propose de feuilleter le nouveau Diapason. Alors on voit la bonne figure du père Jean-Sébastien Bach en couverture et on parle et on étudie les passions de Jean-Sébastien Bach. On parle des œuvres, on parle des interprétations aussi. Un long développement sur les passions en général, c'est le moment, juste avant Pâques. Et puis il y a aussi évidemment des hommages, par exemple, à ceux qui nous ont quittés. Marie-Claire Alain, organiste, Van Cliburn, pianiste, Zavalich, chef d'orchestre, Eric Erickson, chef de cœur, 200 nouveautés critiquées, CD et DVD. Ça continue donc le disque et le DVD. Pour l'instant, on s'en réjouit. Et puis nous avons, comme chaque fois, attribué un diapason d'or tout à fait rouge, avec le sigle de France Inter, rougi on va dire, à certains disques tout à fait passionnants. Comme par exemple le disque d'Anne Kefelec, Satie et compagnie, on l'a déjà évoqué, mais évidemment ça n'est jamais trop. Elle va bientôt nous rendre visite d'ailleurs, Anne Kefelec. Elle sera là le 4 avril, c'est un jeudi. Voici le très joyeux Piccadilly, oui, quartier de Londres où il se passe beaucoup de choses, et Eric Satie l'appréciait. Thank you. Éric Satie, goguenard, qui flâne quelquefois dans l'interprétation d'Anne Kefelec de Piccadilly, ou Piccadilly, comme on dit en français. Bah, une petite danse sympathique d'Éric Satie. Et tout le disque est très passionnant parce que ce sont des pièces très diverses de musiciens français, quelquefois méconnus, mais elle en parlera très bien avec nous le jeudi 4 avril, Anne Kefelec. Donc un très joli disque. Et puis, je l'ai dit, dans ce diapason, donc magazine de la musique classique et aussi de la haute fidélité, il y a aussi des analyses techniques de casques, par exemple, la hi-fi n'est pas oubliée, enfin tout ce qu'il faut. Puis on parle d'Alcan, le génie flamboyant, un personnage mystérieux, compliqué, difficile, qui a vécu au temps de Chopin et de Franz Liszt et qu'on gagne peut-être à approfondir, à connaître mieux. Je l'ai dit, évidemment, parce que c'est la semaine sainte, donc on peut être croyant ou pas, parce qu'il y avait dans l'émission excellente de mon ami Guillaume Erner une discussion ce matin sur la laïcité et tout cela. Donc je dis moi personnellement que si Jean-Sébastien Bach était croyant, ça n'empêche pas d'apprécier sa musique si on ne l'est pas, évidemment, parce que ce chef-d'œuvre incroyable qu'est la Passion selon saint Matthieu, par exemple, dépasse absolument toute notion de croyance. En tout cas, on est sûr, c'est pas une croyance, on est sûr que c'est une musique géniale. Voici le dernier chœur, nous sommes assis en larmes et nous t'appelons dans ta tombe.